C'est le moment de briller.
Quand vas-tu enfin comprendre que plus tu prends, moins tu as?
Tout commence par un évier qui brille.
C'est pas le fait de le faire, c'est le fait d'y penser, c'est ça la charge mentale.
Est-ce qu'il y a encore des
élèves ? Une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres.
Give and be given.
C'est le moment de briller. Une émission présentée par Alexandra Codine.
Julien Guénia est organisologue. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est lui-même qui a créé ce terme, ainsi que l'organisologie en 2018. On comprend très bien et très vite qu'avec lui, on a affaire à un expert en organisation. Par ses nombreux contenus en ligne, par ses livres et par ses formations, Julien aide les entrepreneurs, les professionnels, à s'organiser dans leur travail, à moins souffrir de la charge mentale, à retrouver de la disponibilité mentale. Julien est suisse, d'une région que j'affectionne beaucoup, et il est l'auteur de 3 livres, dont 2 heures chrono pour mieux s'organiser, En finir avec l'infobésité et Le cerveau numérique. Julien est un amoureux de la vie, il est stoïque, sportif et a découvert il y a peu la richesse de la parentalité. Avec lui, nous allons parler de réseaux sociaux, de bonheur, mais surtout, nous allons parler d'infobésité. Bonjour Julien.
Bonjour Alexandra.
Alors avec moi, les auditeurs sont plutôt habitués à entendre parler d'organisation de la maison, celle des tâches domestiques. J'aide mes auditeurs à instaurer des routines, une philosophie de petits pas, de bienveillance, inspirée de la méthode de Fly Lady. C'est ma meilleure amie, passionnée de neurosciences, diététicienne nutritionniste, qui m'a parlé de vous la première fois, mais c'est en faisant des recherches sur l'infobésité que je vous ai vraiment découvert. Vous collez tout à fait au thème, car cette année, on désencombre et on désencombre tout et partout, nos ordinateurs, nos smartphones et même nos cerveaux. Julien, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'infobésité ?
Oui, bien sûr. En fait, c'est un concept qui désigne un excès d'informations qu'un utilisateur ne peut pas gérer. Et donc, en fait, ça nuit à son bien-être, mais également à la qualité de son travail. Voilà. Ça fait déjà quelques années que ce concept existe, hein. C'est un néologisme québécois à la base. En français, on peut aussi appeler ça un nuage informationnel, mais ce n'est pas nouveau. Sénèque en parlait déjà il y a bien longtemps, hein, il y a bientôt plus de 2000 ans, lorsqu'il disait, en gros, hein, je n'ai plus la citation exacte en tête, mais il disait « Une vie entière ne nous sera pas suffisante pour lire uniquement les titres des livres qui se trouvent dans les bibliothèques ».
Ouais, effectivement, en une heure maintenant sur Internet, on charge... Plus de 30 000 heures de lecture, je crois, vous avez entendu dire ça.
Oui, en fait, dans mon livre, je mentionne une donnée qui a probablement évolué. Mais toutes les heures sur YouTube, on a 30 000 heures de vidéos qui sont téléchargées. Donc, en fait, c'est impossible de consommer l'information qui est produite seconde après seconde dans le monde entier par tous les humains. Et par toutes les intelligences artificielles à présent.
Ah oui, du coup, on rajoute maintenant l'intelligence artificielle qui, en quelques clics, en fabrique encore un peu plus.
Bien sûr, bien sûr. On est vraiment dans une exponentielle, en fait. Donc maintenant, ça devient très problématique. 53% des Français souffrent de fatigue informationnelle.
Et sûrement
donc,
de stress.
Donc, vous me direz qu'en fait, 47% n'en souffrent pas, mais ça fait quand même un Français sur deux qui disent en souffrir.
Et on voit les relations qui peuvent être altérées avec notre famille, nos amis, parce qu'on est tout le temps, on a une envie d'aller chercher des informations.
Bien sûr. Et aussi avec le stress, parce que il y a une étude intéressante, j'ai plus l'étude en tête, mais qui avait analysé les personnes qui étaient confrontées à les attentats de Boston, donc ceux qui avaient vécu les attentats du marathon de Boston et ceux qui avaient vu 6 heures de médias qui couvraient le sujet. Et en fait, croyez-moi ou non, mais les personnes qui avaient été exposées à 6 heures de médias qui couvraient l'attentat de Boston montraient plus de stress que les personnes qui avaient été exposées directement à l'événement.
Incroyable.
Donc en fait, on se rend compte vraiment que ça a un effet très 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 stressant. L'information sur nous, sur notre quotidien, sur nos relations, on devient irritable, etc. On a des trous de mémoire. Il y a beaucoup d'effets négatifs de l'infobésité, mais là, j'en ai couvert quelques-uns.
Et pourtant, cette information, c'est depuis la nuit des temps qu'on cherche à l'avoir. historiquement.
Bien sûr.
C'était les hommes préhistoriques.
Bien sûr, en fait, Sébastien Boller en parle très bien dans son livre que je vous recommande, qui s'intitule Le bug humain. Il dit on est câblé à chercher de l'information parce que l'information, historiquement, nous donnait un avantage sur les personnes qui se trouvaient dans notre environnement pour trouver des ressources. Voilà. Donc, en fait, les personnes qui avaient la bonne information au bon moment allaient trouver une eau potable, allaient trouver un endroit où il y a peut-être plus de gibier, plus de baies à cueillir, évitaient des endroits dangereux et donc avaient plus de chances de se reproduire. Et donc, de génération en génération, on est ce qu'on est aujourd'hui, donc câblé à chercher de l'information. La grosse différence qu'il y a 40 000 ans en arrière, on n'avait pas des smartphones qui nous bombardaient d'un flux d'informations comme celui qu'on espérait. On expérimente aujourd'hui, en fait.
Alors, c'est sûr que le numérique, c'est compliqué. Vous avez consacré un livre au cerveau numérique et vous donnez des conseils très pratiques comme celui que j'ai testé et approuvé en préparant cette émission.
Génial.
Le vide cerveau. Alors, franchement, le vide cerveau, ça me fait penser au vide poche qu'on peut retrouver à l'entrée de nos maisons, de nos appartements, dans lequel on pose les clés, les cartes, la monnaie. Expliquez-nous, s'il vous plaît, en quelques mots, à quoi peut ressembler un vide cerveau?
Alors, l'idée du vide cerveau, c'est un lieu physique ou numérique. Donc, ça peut être sur un calepin ou dans une application. Moi, je donne trois applications dans mon livre, Workflowy, Notion ou Obsidian. Moi, j'affectionne tout particulièrement Workflowy. L'idée, c'est de, au fil des heures, plutôt que de conserver à l'esprit toutes ces petites choses qu'il faut faire, les lettres qu'il faut envoyer, les factures qu'il faut relancer, les trucs à acheter, etc., etc., ben, finalement, on va simplement le déposer au fil des heures dans un lieu unique, centralisé, que l'on va pas toucher jusqu'au moment où on décide de le toucher. Donc moi, en fin de journée, en général, je vide mon vide cerveau, c'est-à-dire je traite l'information qu'il y a dedans et je vais organiser les tâches isolées dans mon agenda, organiser les tâches en lien avec des projets dans un espace avec mes projets et puis tout le reste, je vais le traiter plus tard.
J'ai également testé d'éloigner mon portable durant mes phases de travail et de désactiver les notifications WhatsApp sur mon ordinateur. Ça aussi, c'est un conseil que vous donnez, en fait, de s'éloigner de certains appareils ou de certaines applications ou notifications.
Ah, ben, c'est un peu le principe fondateur de l'organisologie. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas disons que la discipline, c'est bien, mais face aux outils numériques, tôt ou tard, on sera fatigué, on aura une mauvaise nuit, tôt ou tard, on sera ennuyé. Donc, en fait, le contexte avant la discipline, c'est un de mes principes qui m'est très, très cher et qui a été bien mis en œuvre par Ulysse, qui, pour résister au chant des sirènes, il voulait écouter le chant des sirènes, mais il ne voulait pas succomber à ce chant des sirènes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son équipage de l'attacher au mât du navire. Et donc, ça lui a permis de résister au chant des sirènes tout en écoutant celui-ci. Aujourd'hui, les outils numériques ont remplacé le chant des sirènes. Et donc, en fait, il faut utiliser des logiciels pour nous aider. Alors, évidemment, il y a la technique d'éloigner le smartphone, de le mettre dans une autre pièce, qui est très bien. C'est un très bon début. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que je recommande aux gens, c'est vraiment de ne pas travailler avec leur smartphone dans la même pièce. Mais ensuite, il y a des logiciels comme, par exemple, Cold Turkey, un logiciel très, très intéressant pour nous éviter d'aller vérifier 36 000 fois par heure notre boîte email ou d'aller sur les réseaux sociaux, donc d'être beaucoup plus focus. Et puis ensuite, pour le smartphone, il y a une autre application qui s'appelle App Blocker, qui fonctionne de la même manière et qui est vraiment très, 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 très puissant pour passer beaucoup moins de temps et reprendre le contrôle simplement sur ce flux d'informations incessant.
Quand on reprend le contrôle, on peut prendre du temps pour aller se promener, pour profiter de la vie.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
Retour en studio, Julien Guénia avait choisi la chanson de Ben Mazuet, Quand je marche. Nous en avons entendu que le refrain, faute de temps. Mais Julien, j'aimerais que vous nous parliez des premières phrases du début. Écoutons-les.
Faut que j'envoie ces lettres, faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été, trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai, et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache...
Du coup, on entend, ça part dans tous les sens avec des « il faut que », « faut faire ceci », « faut faire cela ». Julien, est-ce que ça aurait pu être vos phrases avant de faire de l'organisologie ?
Oui, bon, c'est aussi un petit peu ce qui m'a poussé à m'intéresser à l'organisation, parce qu'à une époque, j'avais pas mal de... comme tout le monde, hein, quand on rentre dans la vie d'adulte, ben, la to-do list, ça fonctionne bien quand on est, je ne sais pas, qu'on a peut-être une ou deux épreuves à passer, des examens, etc. Mais à partir du moment où on a une vie associative, on a une vie de famille, on a plusieurs projets, on a peut-être en parallèle de notre travail, on a peut-être un projet professionnel, on a le sport, on a la vie de couple, etc. Ben, tout ça fait que, ben, il y a la vie d'adulte qui arrive et donc il faut commencer à s'organiser pour ne pas couler, pour ne pas boire la tasse et pour ne pas, comme j'aime bien dire, exploser en vol, donc c'est-à-dire faire un surmenage, être stressé, etc. Donc oui, ça aurait pu être moi. Et moi, si l'organisation s'est transformée un petit peu en obsession, c'est parce que ça m'a énormément apporté. Et c'est ce que j'essaye de retranscrire, bah, finalement, via mes articles, mes créations, en fait.
Alors, vous en avez plein des informations à nous transmettre et vous en avez fait 3 livres. Vous êtes au milieu de tout ça, devenu papa récemment. Dans beaucoup de
Oui.
foyers, c'est une période charnière. Il y a un avant et un après à la maison. Est-ce que vous avez trouvé une méthodologie pour ne pas souffrir de la charge mentale domestique? Est-ce que chaque membre se sent en équilibre et peut sincèrement s'épanouir dans ses compétences et ses projets?
Bon, je vais être honnête avec vous, c'est vrai que c'était une transformation, c'était pas évident. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est très compliqué d'avoir un enfant et que ça rajoute beaucoup de charges. Je suis d'accord, moi j'aime bien appeler mon fils le petit générateur de chaos, slash d'amour, ça dépend un petit peu des jours. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que beaucoup de parents, en fait, ils font un enfant alors qu'ils sont déjà complètement désorganisés. Donc forcément, dans cette situation-là, ça va pas, on va dire, ça va pas, faire un enfant ne va pas faciliter l'organisation. Mais ce que j'ai aussi envie de dire aux parents aux gens qui aimeraient devenir parents et qui ont peur de ça, ben en fait, quand on est organisé, déjà avant de devenir parent, bah, c'est beaucoup plus facile. Évidemment, ça reste difficile. Évidemment, il y a des moments, c'est bah, comme tous les parents, hein, on est là, purée, on est fatigué, il y a énormément de tâches ménagères qui s'ajoutent. Mais je pense qu'avec une bonne communication, donc ça, je pense aussi un aspect important, c'est-à-dire qu'on n'est plus seul, mais il y a vraiment cet aspect avec bah, moi, avec ma femme, il y a un petit truc que j'aime bien dire, en fait, et que je fais toutes les semaines, ou presque, évidemment, hein, mais c'est ce que j'appelle une révision de couple. Voilà. Et donc, en fait, en fin de semaine, on prend un moment, en général le dimanche soir ou au plus tard le lundi matin avec le café, pour ben, passer quelques éléments en revue, vider notre sac, organiser la semaine. Et en fait, c'est tout simple. Mais ça permet de vraiment faciliter l'organisation, faciliter les non-dits, sortir les non-dits, éviter que ça se transforme en monstre, quoi, et que tout d'un coup que ça explose, un peu comme une cocotte minute. Et pour justement rajouter un petit peu de fun dans cette révision, on fait un selfie à la fin. Donc on se prend en photo semaine après semaine et on partage ce point dans notre cerveau numérique. Donc on a un point partagé et donc ça nous permet de voir semaine après semaine notre transformation, voir bah, les étapes de la vie qui étaient importantes, ce qu'on a franchi ensemble, les moments qui étaient cool, les moments qui étaient un peu moins cool. Et voilà. Mais oui, forcément, ça faire un enfant, c'est une aventure, quoi.
C'est effectivement une sacrée aventure. Vous entendez dans mon jingle, c'est une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Du coup, soyons un exemple pour nos enfants. Prenons en charge cette infobésité. Merci Julien Guénia. Si l'on veut vous suivre, on vous trouve sur des réseaux sociaux quand même, même si vous savez que ça ne fait pas notre bonheur. On vous trouve sur LinkedIn. Plus d'infos sur votre site organisologie.com. Je recommande vraiment vos livres à qui est intéressé par ce sujet. Celui qui va rester encore un moment sur ma table de chevet et en finir avec l'infobésité, car même si je sais à quel point il est primordial de pas se laisser distraire par les écrans, j'ai encore du chemin pour réduire mon infobésité. En attendant, s'il y a une zone chez moi qui est désencombrée et nettoyée tous les soirs, c'est bien mon évier, car vous le savez, pour moi, tout a commencé par un évier qui brille. À la semaine prochaine.